Bonjour à tout le monde. Content d'être parmi vous ce matin. C'est toujours avec beaucoup de joie que je viens chaque fois. Je vis en Guadeloupe. Cela fait 25 ans que j'ai quitté la métropole. Et je vis en Guadeloupe et chaque fois je viens en métropole, quand c'est possible, j'essaie toujours de faire un saut dans cette communauté. Parce que j'ai beaucoup reçu dans cette communauté. C'est au sein de cette communauté que le Seigneur m'a permis de commencer à le servir, commencer à enseigner, commencer à prêcher, effectivement, comme l'ado l'a rappelé. Hein. Je me rappelle ce jour-là, inoubliable, un message que je devais prêcher en 40 minutes, je l'ai prêché en moins de 10 minutes. Mais depuis ce temps-là, le Seigneur a fait son œuvre. Et cela me fait plaisir de voir toujours les fidèles. Hein. Jennifer, une enfant de l'église que j'ai vue bébé, de voir qu'elle est là, hein. Une belle demoiselle, hein? Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes qui restent attachées au Seigneur, malgré les difficultés de la vie, malgré les circonstances. On est là, nous servons le Seigneur parce que nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Ce matin, le titre de notre message de ce matin est le suivant, « Servir le seul vrai Dieu ». Servir l'unique Dieu. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Rois, chapitre 18. Nous allons lire les versets 16 à 40. 1 Rois, chapitre 18, versets 16 à 40. Donc tout le monde a trouvé, nous pouvons commencer notre lecture à partir de 1 Rois, chapitre 18. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra, qui mange à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Quand l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. » Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils crièrent à pleine voix et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors au peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom ». Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es, toi, Éternel, qui es Dieu et c'est toi qui ramène leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et l'absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et il leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils le saisirent et les firent descendre au torrent de Kishon où il les égorgea. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour bien comprendre le texte que nous venons de lire, il ne serait pas vain de le situer dans son contexte. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ, 880-840. Cet événement du Mont Carmel se passe dans le royaume du Nord. Rappelez-vous que le peuple d'Israël a connu un schisme au 10e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple s'est divisé en deux. Une partie vivait dans le Nord, on l'appelait royaume du Nord, et qui était composé de 10 tribus, et une autre partie vivait dans le sud, qu'on appelait Royaume du Sud. Le Royaume du Nord a été infidèle au commandement de l'Éternel très tôt. Ils ont commencé à pratiquer un culte syncrétiste, c'est-à-dire, tout en rendant un culte à Dieu, ils rendaient aussi un culte au Dieu de leurs voisins. C'est-à-dire le peuple du royaume du Nord avait tenté de combiner le culte de l'Éternel avec le culte des Baals. Baal était le principal dieu principal de la mythologie et de la religion cananéenne qui employait le rite de la prostitution sacrée comme magie afin d'obtenir la fertilité du sol. Mais en quoi ce texte nous concerne-t-il aujourd'hui? Pourquoi je prêche sur ce texte-là? L'homme reste le même, quelles que soient les générations. L'homme qui a existé il y a 2000 ans est le même ici que nous trouvons ici, en France, en Guadeloupe. Il parle une autre langue, il s'habille différemment, mais son cœur reste le même. C'est la raison pour laquelle la Bible reste toujours actuelle, parce qu'elle a été écrite à tous les hommes, quel que soit le temps, et la parole de Dieu restera toujours valable. De nos jours, beaucoup de personnes pratiquent un culte syncrétiste. Par exemple, ils vous disent qu'ils sont chrétiens, mais ils pratiquent aussi le vaudou. Ils vous disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vénèrent Bouddha. Ils vous disent qu'ils sont chrétiens, eh bien, ils sont francs-maçons. Ils vous disent qu'ils sont chrétiens, mais ils rendent un culte à l'hindouisme. Donc chacun fait son petit marché. Et on appelle ça les gens qui ont l'esprit large. Des gens qui sont ouverts d'esprit. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Israël. Tout pendant que le peuple adorait le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, eh bien, il rendait un culte aux yeux des Baals. Et donc, à cause de cette infidélité, une sécheresse sévit dans le royaume du Nord. Et le roi Akab dit au prophète Élie au verset 17, « Est-ce que c'est toi qui jettes le trouble en Israël ?» Ce roi est complètement aveuglé spirituellement. Il impute la faute à Élie. Il met la faute sur le compte d'Élie. Élie, qui est un homme de Dieu, un homme qui a les pieds sur terre, lui donne au verset 18 la réponse. « Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Vous êtes ralliés à d'autres dieux, et notamment au dieu de Baal. Voilà les raisons qui expliquent ce trouble en Israël. Voilà les raisons qui expliquent cette sécheresse en Israël. » Et au verset 19, Élie soumet une demande au roi Akab en lui disant « De réunir tout Israël et tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. » Pourquoi Élie a-t-il choisi ce lieu de demander au roi de réunir tout Israël et tous les prophètes de Baal au mont Carmel? Le mont Carmel était l'un des hauteurs sur lesquelles ils adoraient Baal. Élie, en choisissant ce lieu, Élie pénètre dans le domaine privé du faux Dieu pour le contester, pour le défaire, afin de montrer au peuple que Baal n'est que du néant, n'est rien du tout. Et à partir du verset 23, Élie lance un défi au prophète de Baal. Choisissez un taureau, préparez-le, invoquez le nom de votre Dieu sans y mettre le feu, et le Dieu qui répondra, qui consumera l'holocauste par le feu, c'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Donc, le roi Akab accepte la requête du prophète Élie. Il faut savoir que l'enjeu de la contestation n'était pas de démontrer lequel des deux dieux qui était le plus grand ou le plus fort, mais lequel était le vrai Dieu, l'autre n'étant que du néant, rien du tout. C'était ça l'enjeu. Ce n'était pas de savoir est-ce que le dieu Baal était le plus fort, ou le dieu d'Israël était le plus fort que le dieu des Baals. Non, ce n'était pas ça l'enjeu. C'était de savoir lequel qui était le seul vrai Dieu. Et au verset 25, Élie laisse la primeur au prophète de Baal. Pourquoi il les laisse commencer en premier? D'une part, Élie est convaincu que Baal ne va pas répondre à leurs prières. C'est du néant. Et d'autre part, Élie veut faire éclater la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle il leur demande de commencer d'abord, vous êtes les plus nombreux. Ces 450 prophètes ont invoqué Baal depuis le matin jusqu'à midi, et toujours aucune réponse. Essayez d'imaginer cette scène. Ils sont là, ces 450 prophètes de Baal, 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 Baal. Et rien ne se passe. Et à tel point, au verset 27, Élie leur dit, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, il est occupé, il est en voyage, il dort. Toutes ces attributs, toutes ces expressions sont en contraste avec les attributs de Dieu. Sont en contradiction avec les attributs de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois, Comment est-ce possible? Puisqu'il est Dieu. Moi, je ne peux pas être ici et être en Guadeloupe en même temps. La Bible nous dit que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut toutes choses, qu'il est tout puissant. La Bible nous dit que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Contrairement, peut-être il dort, peut-être il est en voyage, peut-être, voilà, il est tellement occupé, donc il ne peut pas vous répondre. Après l'échec des prophètes de Baal, au verset 29b, lisez bien cela. Hein. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ni réponse, ni voix, ni signe d'attention. Donc, l'échec est cuisant. Après cet échec, Élie entre en scène au verset 30 à 39. Élie non seulement prépare l'offrande, et oui, l'holocauste, mais qu'est-ce qu'il dit? Versez de l'eau une première fois. Versez de l'eau une seconde fois. Versez de l'eau une troisième fois. Ce n'était pas du pétrole hein, ni de l'essence. Hein. C'est de l'eau. Pourquoi? Élie est sûr que le Dieu véritable va exaucer sa prière. Regardons le contenu de la prière d'Élie au verset 36 et 37. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Voilà le contenu de la prière d'Élie. Qu'est-ce que nous remarquons dans cette prière? Élie mentionne leur héritage spirituel, leur ancrage spirituel, leur histoire, leur identité, leur source, l'origine de leur croyance. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu de leurs ancêtres, que Israël est en train sur le point d'abandonner. Et c'est ça le début de la prière d'Élie. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous voyez, c'est très important. Élie est obligé de rappeler au peuple leur origine spirituelle, leur ancrage spirituel, leur histoire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avant tout, Élie cherche d'abord l'honneur de Dieu. Et voyez bien, il parle d'abord de Dieu, Élie, dans sa prière. Ensuite, Élie va parler de lui. Que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. On voit à travers cette prière toute l'humilité d'Élie, un homme humble devant l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cherchant l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu avant toute chose. Et ensuite, il parle de lui, qu'on reconnaisse que je suis ton serviteur. Et au verset 38, nous voyons la réponse du seul vrai Dieu. La réponse du seul vrai Dieu au verset 38, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. un homme de foi, un homme qui a confiance dans le Dieu qu'il sert. Mais avant de terminer ce message, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Littéralement, jusqu'à quand sauterez-vous des deux côtés? Vous pouvez sauter là. Voilà. Un coup je suis là, un coup je suis là. Un coup je suis avec Baal, un coup je suis Bouddha, un coup. Voilà. C'est ça. Jusqu'à quand sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à Dieu, servez ce Dieu-là. Si c'est Baal, ralliez-vous à Baal. Mais ne sautez pas des deux côtés. Élie appelle le peuple à prendre une décision, à faire un choix. Mais regardez bien l'attitude du peuple. Le peuple ne lui répondit rien. Ils ne veulent pas se positionner. Ils ne veulent pas se positionner. Mais la parole de Dieu nous appelle à nous positionner devant Dieu, pour Dieu. Nous devons prendre des décisions. Dans la vie, nous avons sans cesse des choix à faire, des décisions à prendre. Et nous savons prendre nos décisions. On ne tergiverse pas à droite et à gauche, hein, à un moment donné, il faut prendre une décision. Jésus a dit, je suis le chemin. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, hein, comme on dit. Hein, vous connaissez l'expression, tous les chemins mènent à Rome. Non, Jésus a dit, je suis le chemin. C'est bien l'article défini. Hein, ce n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Hein. Jésus a dit, je suis la porte. Tandis qu'une maison peut avoir plusieurs portes, le royaume de Dieu n'en a qu'une et cette porte c'est Jésus-Christ. Et Jésus a dit, je suis la vérité, c'est bien l'article défini, là est l'article défini, la vérité. Bouddha, à la fin de sa vie, a dit, je suis toujours à la recherche de la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, je préfère placer ma confiance dans celui qui est la vérité plutôt qu'en celui qui est toujours en recherche de cette vérité. C'est bien l'article défini. Hein. Donc nous avons sans cesse des décisions à prendre, eh bien, le peuple, Élie appelle le peuple à se positionner. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui, servez-le, suivez-le. Si c'est Baal, ralliez-vous à Baal, suivez-le, servez Baal. Mais ne jouez pas. Et si vous avez décidé de servir l'Éternel, le seul vrai Dieu, vous devez le manifester concrètement dans votre vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est beaucoup plus facile de mourir pour sa foi que de la vivre. Et la vie chrétienne est une vie pratique, une vie, bien sûr, verticale, tournée vers Dieu, mais il y a toute cette vie, cette dimension horizontale tournée vers le prochain. Et beaucoup de chrétiens, quelquefois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, ils disent que c'est toujours leur relation vis-à-vis de Dieu, mais ils oublient cette dimension horizontale tournée vers l'autre, vers le prochain. La Bible doit devenir votre boussole, pas votre religion. La Bible a survécu, elle est traduite en plus de 1600 langues. C'est le livre le plus lu dans le monde. Elle a survécu malgré les attaques. Mais elle restera, parce que la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Toutes les philosophies vont arriver, à un moment donné vont passer. Mais cette parole est éternelle. parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, et c'est pour ça qu'Élie appelle le peuple à se positionner. Et je me rappelle avant de donner mon cœur à Jésus, avant de donner ma vie au Seigneur Jésus. Je ne pouvais pas commencer ma journée sans avoir lu mon horoscope ou écouter l'horoscope. Il me fallait lire mon horoscope. Et quand je travaillais, à l'époque j'étais infirmier, je travaillais, la première chose que je prenais, le Parisien, pour lire l'horoscope. Et quand je me suis tourné vers Jésus-Christ, ça a fait plus de 30 ans, je n'ai jamais lu un horoscope. Parce que je n'en ai pas besoin. Parce que l'évangile est libérateur. Et c'est la raison pour laquelle je prêche l'évangile avec mes tripes, mes entrailles. Et depuis que j'ai commencé à prêcher l'évangile, je n'ai jamais arrêté. Parce que je sais que ce que l'évangile a produit dans ma vie, et je l'ai vu dans la vie des centaines et des centaines de personnes. Parce que je sais que l'évangile est vrai. Parce qu'il transforme les cœurs, transforme les vies. Et je suis étonné de voir le nombre de personnes qui se disent chrétiens et qui connaissent parfaitement les signes astrologiques. Il suffit de leur dire votre date de naissance pour qu'ils vous disent « Ah, vous êtes de tel signe. » Je dis « Ah, pour, ils sont forts. Hein. » Mais ces mêmes personnes qui vous disent qu'ils sont chrétiens et qu'elles sont chrétiennes sont incapables de vous citer 4 livres de la Bible. Et pourtant, l'évangile est libérateur. Et moi, j'habite en Guadeloupe et la plupart des personnes se disent chrétiennes. Hein. Il y a le festival de la voyance en Guadeloupe. Les gens font la queue. Ces mêmes personnes qui vont à l'église. Hein. Et c'est exactement ce qu'on appelle un culte syncrétiste. C'est exactement la même chose. Ils vont à l'église, ils adorent, ils chantent les cantiques, ils chantent, voilà. Et en même temps, ça ne les empêche pas d'aller voir les voyants. Et c'est ce qui se passait en Israël. Et c'est la raison pour laquelle Élie leur a dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si l'Éternel est, et si c'est Baal qui est Dieu, ralliez-vous à Baal. » Eh bien, c'est cela. L'Évangile appelle à se positionner. J'ai lu l'histoire d'un homme qui avait l'habitude d'attacher son cheval devant un bar, devant un bistrot. Tous les dimanches matins, il allait au bar, dans le bar, hein, au bistrot, et il attachait son cheval devant le bistrot, devant le bar. Un dimanche matin, il n'a pas attaché son cheval devant le bistrot, devant le bar. Le propriétaire du bar est allé le voir. « Pourquoi ce matin, vous n'avez pas attaché votre cheval devant mon bar ?» Il répondit, « Hier soir, samedi, je suis allé dans une réunion, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Alors, j'ai changé mes points d'attache. » Alors, j'ai changé mes points d'attache. Et beaucoup de personnes, ils veulent suivre Jésus, mais ils veulent garder leurs anciennes habitudes. Ils ne veulent pas changer leurs points d'attache. Eh bien, cet homme avait très bien compris. Parce que être disciple de Jésus, un disciple veut dire quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître. C'est ça la définition d'un disciple. Quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Nous devons changer nos points d'attache. Si nous avons décidé de suivre le Seigneur, alors nous devons aussi changer nos points d'attache. Rechercher les choses d'en haut, ce que la Bible enseigne. Alors, qu'est-ce que nous avons dit ce matin, en conclusion? Le peuple d'Israël pratiquait un culte syncrétiste. C'est-à-dire, tout en adorant le seul vrai Dieu, ils adoraient aussi les dieux des Cananéens, ils combinaient les deux. Mais le Dieu de la Bible ne peut pas partager sa gloire avec un autre. Dieu ne peut pas tolérer une telle attitude. C'est la raison pour laquelle, par la bouche de son prophète, Dieu a appelé le peuple à faire un choix. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à Baal. Élie a appelé le peuple à se positionner, à prendre une décision. Dieu ne veut pas que nous ayons un cœur partagé. Il faut faire un choix. Dieu nous appelle ce matin à prendre une décision. Pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Arrêtez de jouer avec l'Éternel. Et si vous avez choisi de servir l'Éternel, la Bible, la parole de Dieu, doit devenir votre boussole. Et que votre vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tout ce qui a été écrit, il a été écrit d'avance pour notre instruction. À travers ce récit du Mont Carmel, Seigneur, nous ne pouvons pas rester indifférents. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. Nous confessons de nos lèvres, Seigneur, que tu es le seul vrai Dieu. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à vivre cette réalité dans notre vie de tous les jours. De nos propres forces, Seigneur, nous sommes incapables de le faire. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous faisons appel à ta grâce. Nous faisons appel à ta bonté. Nous faisons appel à ta miséricorde, Seigneur. Tu nous as sauvés par grâce, par cette faveur imméritée, Seigneur. Mais tu nous permettras aussi de continuer, par grâce aussi, continuer à avoir les yeux fixés sur toi, malgré les circonstances dans notre vie. Parce que tu restes notre Dieu. Tu nous as dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Merci Seigneur de nous accompagner pendant notre vie ici-bas et que nous soyons des instruments, Seigneur, entre tes mains, là où tu nous places, Seigneur, que nous soyons des bénédictions, Seigneur, pour tous ceux et celles que nous côtoyons, Seigneur, que toutes ces personnes que tu mets sur notre route, que toute la louange, que toute la gloire te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.